Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, le Parti québécois refoulé au Salon Bleu puisqu'ils n'ont pas prêté serment un projet de loi à venir. Christian Dubé lance un appel aux infirmières retraitées pour venir aider au 8-1-1. La couverture vaccinale des enfants de Montréal est insuffisante, la recrudescence de certaines maladies présagées. Et Kanye West refait des siennes et ce n'est pas très beau.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Alors, la nouvelle politique du jour, on s'y attendait, c'est maintenant chose faite. Les trois députés péquistes ont tenté d'entrer au Salon Bleu ce matin, se sont fait claquer la porte au nez, même si c'était pas aussi évocateur, aussi violent que ça. Espéraient peut-être qu'une solution de dernière minute là serait envisageable pour leur permettre de siéger, mais finalement, non. L'interprétation là de la loi parlementaire par la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, a été sans équivoque. On peut en écouter un petit extrait, Mario, de la manière dont elle a annoncé ça.
Je réitère que les députés qui n'ont pas prêté le serment d'allégeance prévu par l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867 ne pourront pas prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions parlementaires. Cette décision est finale et sans appel et ne peut, conformément à l'article 41 de notre règlement, être mise en question.
Ouais, la fin, ça fait très raide, là, mais toutes les décisions du président, essentiellement, sont finales et sans appel, et en vertu de l'article 41, ne peuvent pas être remises en question. Ouais. Donc,
Ça s'est fait quand même d'une manière, disons, on dirait presque que c'était scripté, le protocolaire.
Oui, parce que pendant que la présidente lisait ce texte, là, en fait, sa décision, la sergente d'armes, elle est partie doucement, elle est sortie du Salon Bleu et est allée annoncer la décision à la porte du Salon Bleu à Paul-Saint-Pierre Plamondon et ses collègues. Là.
Oui, lui qui s'était déjà fait barrer la route par un constable spécial et là finalement, là, justement, a demandé à s'adresser avec celle qui est chargée, là, la sergente d'armes, de faire la loi et l'ordre, de faire respecter l'ordre au Salon Bleu, le Véronique Michel de son nom, et ont discuté cordialement quelques instants et a finalement là, décidé de se retirer un peu plus loin. Donc, ce sera à voir, là, parce qu'il veut vraiment attendre, là, M. Saint-Pierre Plamondon, qu'il y ait un projet de loi de déposer. Est-ce qu'il va, un peu plus tôt sur nos ondes, il affirmait être quand même ouvert à certaines solutions mitoyennes, avoir peut-être là un de ses membres assermenté pour aller là participer aux échanges, aux débats.
Moi, si j'étais eux, là, je le ferais, c'est sûr. Là. C'est-à-dire que si j'étais le PQ, regarde, d'abord là, le point y est fait. On s'entend là, ce matin, le point y est fait, là, bord en bord, que le PQ a forcé le jeu, puis tout ça, puis bon. Le chef sera jamais, il deviendrait le premier député là, de l'histoire de l'Assemblée nationale à siéger sans avoir prêté serment à Sa Majesté. Fait que ça, je comprends qu'on veut garder ça intact, OK?
Oui.
Mais Pascal Bérubé, là, en tout respect, il l'a prêté 5 fois le serment, là.
Oui, c'est déjà, disons que c'est fait, là.
Ben là,
c'est
disons, déjà, s'il était souillé, puis humilié, c'est déjà fait, là, OK? Donc, Moi, si j'étais le Parti québécois, je ne me mettrais pas dans la position où c'est les autres qui règle mon problème, seul. Tu comprends? C'est les autres partis qui seuls règlent mon problème. Je m'arrangerais, donc j'en ferais assermenter un, qui pourrait participer aux travaux, participer à la commission parlementaire, à l'étude du projet de loi, à toutes les étapes de ce projet de loi sur le serment, de telle sorte que le Parti québécois, tu comprends, dans la photo, là, dans la, comme on dit, dans la photo à l'atelier de couture où on est en train de faire le projet de loi,
il y a un péquiste. Le photo finish, là.
C'est ça, il y a un péquiste dans le portrait, là. Tu sais, le Parti québécois a travaillé dessus. Sinon, ben, t'es en position du spectateur où t'assistes aux travaux des autres partis, qui règle ton problème. Dans le fond, qui règle un problème, on pourrait dire, de toute l'Assemblée nationale, mais qui, pour l'instant, règle ton problème. Alors ça, c'est une réflexion. Moi, je vais te dire, je trouve, du côté positif, là, mes commentaires du jour, du côté positif, je trouve que le Parti québécois a agi avec classe. Je trouve que Paul Saint-Pierre-Plamondon a agi avec classe. Tu l'as bien décrit. Tu sais, je veux dire, se faire sortir, mettons, Manu Militari, puis la sécurité, puis tout le taponnage. Non, non.
Il est resté à la porte. Il a martyr comme ça, puis ça n'aurait pas eu le même effet.
Pis c'est ça. Il a pas joué au clown, il a pas joué au martyr. Il a été très gentil avec la sergent d'armes. Il a dit, je sais que vous faites votre travail. C'est ce qu'on vous a dit. C'est ça votre travail aujourd'hui. Il a été très correct. Du côté moins positif, le PQ a très bonne presse aujourd'hui. Moi, dans mon analyse, je me demande juste, est-ce qu'ils ont... Tu sais, c'est une chose de se prendre un énorme élan, de baisser l'épaule puis de dire, là, je défonce une porte. Ah, tiens-toi bien, gomme-moi bien aller, je défonce une porte. C'est juste que celle-ci, je suis pas sûr qu'elle était fermée.
Elle est pas barrée du tout. Aussi elle est fermée, elle est pas barrée, disons.
Ouais, parce que là, le printemps passé, là, c'était quasiment fait. Là. Québec solidaire, la CAQ, tous les députés, il n'y avait aucune objection, tout le monde était d'accord. Puis c'est les libéraux, là, au dernier moment, les libéraux ont dit, ah ben nous, là, sur le serment, il faudrait qu'on ait plus de temps pour l'étudier. Et là, cet automne, vraiment, tout le monde avait l'air prêt. Bon, encore les libéraux qui demandaient peut-être un petit peu plus de temps. Mais tu sais, qu'est-ce qu'une bataille courageuse et épique si t'as pas d'adversaire?
Ouais.
C'est que, qu'est-ce qu'une bataille historique, épique, empreinte de courage et de ténacité?
Parce qu'on s'entend que si c'était, par exemple, le gouvernement qui s'y opposait, un gouvernement minoritaire, l'Assemblée nationale divisée...
Et que là, le PQ, jour et nuit, avait, je sais pas, mais fait des blocages de travaux...
Avait décidé de lever une tente dans l'Assemblée nationale, dormir là, mais là attendant de pouvoir rentrer. On sait pas, là.
On avait déjà l'unanimité, là. On avait... Le PQ obtient une victoire, probablement en termes de timing. Moi, je suis prêt à leur donner qu'ils ont probablement devancé ça, forcé le jeu, forcé la main, que ça se fait un peu plus vite. Mais ils ont quand même obtenu gain de cause sur quelque chose qui fait l'unanimité, avec lequel tout le monde est d'accord. Donc, il faut, il faut souligner une certaine force de conviction et une certaine fermeté. Mais il faut quand même regarder le portrait d'ensemble. Ils enfoncent une porte ouverte.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Le ministre de la Santé a fait un appel aujourd'hui aux infirmières retraitées qui voudraient venir prêter main forte au réseau de la santé. Christian Dubé, entre autres, qui veut des infirmières retraitées pour prendre les appels sur la ligne pédiatrique du 811. Parce qu'en ce moment, avec évidemment les urgences qui sont sursaturées, là, les taux d'occupation aux urgences de l'hôpital de Montréal pour enfants, par exemple, est à 192%. En ce moment, selon le site Index Santé. Et donc, il y a beaucoup de parents qui décident, au lieu d'aller aux urgences, d'appeler le 811, un endroit où on peut se faire répondre habituellement.
Et ils ont un volume d'appels écrasant.
Démesuré. Imaginez là, si les urgences, là, pour prendre la décision, t'habilles tes enfants, tu prends l'auto, tu traverses les ponts, tu te rends à Montréal, tu te rends à l'hôpital le plus proche, t'amènes tes enfants dans la salle. Ça, c'est un investissement de temps, puis ils sont débordés. Imaginez juste prendre le téléphone et appeler quand votre enfant renifle. Il y en a du monde sur les lignes. Et Christian Dubé, d'ailleurs, qui veut utiliser le programme, là, je contribue. Parce qu'en vertu de la loi, ce programme spécial qui a été créé, on se souviendra, pendant la pandémie de COVID-19, alors que le personnel soignant tombait comme des mouches un peu partout, ça autorise, entre autres, des exceptions au niveau syndical, des autorisations spéciales de travail pour faire revenir des gens dans le milieu. Mais selon la loi, on peut maintenir à l'emploi ces volontaires-là jusqu'au 31 décembre qui s'en vient. Et Christian Dubé parlait de vouloir prendre jusqu'à 5000 infirmières pour aller justement utiliser ces lignes d'attente du 811. Un projet qui semble réaliste pour toi, Mario, ou 5000 infirmières, c'est un chiffre trop grand?
C'est difficile à évaluer. En fait, la question, moi, je sais pas comment pensent les infirmières retraitées, là. T'sais, celles qui, par exemple, qui ont pris leur retraite dans la dernière année, alors qu'on essayait d'en recruter ou d'en garder. Je me dis, tu sais, tous les efforts étaient là, les primes salariales étaient sur la table pour les garder, puis ils ont quitté pareil.
Ouais.
Ça leur tente-tu vraiment? Mais peut-être revenir sur une ligne téléphonique. C'est sûr que c'est pas la même chose que de revenir dans une salle d'urgence. Peut-être qu'il y en a qui reviendraient. Écoute, je suppose qu'il met des lignes à l'eau. Il y a besoin de monde. Il y a besoin de bras. Il met des lignes à l'eau de toutes les manières possibles pour essayer de recruter des gens. Puis des gens que, c'est pas des gens que tu vas avoir besoin de former, là. Des gens qui sont prêts à être opérationnels. Parce que c'est ça, là. Une infirmière qui a pris sa retraite récemment. T'as pas une longue formation, là. Elle est prête à, est prête à se mettre au travail très, très, très rapidement.
Oui, puis il y a de l'expérience aussi avec des symptômes comme ça qui vont être énoncés au téléphone. Mais ça prend quand même une certaine expertise. Là. On comprend que toi et moi, Mario, on pourrait pas répondre à la ligne 811.
Mais on lui souhaite bonne chance, mais j'ai mes doutes là, que celles qui ont quitté dans la dernière année, ça veut dire qu'elles ont tourné le dos aux primes salariales et autres. Ouais. Elles ont tourné le dos à tout ça pour dire, moi, je suis tanné, je vais prendre ma retraite, je suis fatigué ou je commence à avoir des problèmes de la santé. Bon, pourrait-elle retourner dans quelque chose de moins dur, une ligne téléphonique? Tant mieux s'il y en a qui le font.
La couverture vaccinale des enfants de Montréal est insuffisante et la santé publique de Montréal tire la sonnette d'alarme. Quand on parle d'insuffisante, là, c'est pas la couverture vaccinale, par exemple, de la COVID-19. Non, c'est la vaccination contre des maladies pour lesquelles, habituellement, on a une immunité collective qui prévient des éclosions majeures. On parle de la rougeole, de la poliomyélite, de la coqueluche également. On dit que pour éviter la transmission de la maladie puis avoir cette fameuse immunité collective, on doit avoir une propagation là, de 95% de la couverture vaccinale. En ce moment, elle serait entre 80 et 85% chez les élèves de la maternelle dans la grande région de Montréal et on craint qu'il y ait justement des éclosions et donc on veut rehausser les couvertures vaccinales de la population montréalaise. On appelle les parents d'enfants de 6 ans et moins à aider à prévenir en renouvelant le carnet de vaccination au grand complet et on n'est pas les seuls au Québec, Mario, ni à Montréal à avoir des problèmes avec cette fameuse couverture vaccinale insuffisante chez les enfants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, semble-t-il que la COVID-19 ait engendré un retard sur tous les programmes de vaccination à travers le monde, surtout auprès des enfants.
Ce qu'on n'a pas comme portrait, c'est... Je sais que pour les gens de la santé publique, là, c'est de l'ultra sensible, c'est un sujet qu'on veut pas trop s'embarquer, je les comprends, là, je ferais pareil à leur place, mais la vraie question, c'est quel est le pourcentage de gens qui ont juste été un peu là, bousculés par la COVID, puis les rendez-vous réguliers, se déroulent pas comme prévu, puis tout ça, il y en a probablement de ça, versus ceux que à cause de la COVID, leur perception générale, la COVID a amené vraiment à multiplier par 10 le mouvement complotiste, incluant les complots anti-vaccins.
Oui.
Et quel est le pourcentage de ceux qui, là, en ayant lu des choses, en ayant vu un docteur sur YouTube qui parlait contre les vaccins, ben là, ils veulent plus aucun vaccin. Ils sont rendus qu'ils ont peur de tous les vaccins. Même les campagnes de vaccination normales que les enfants ont depuis des décennies, là, on sait plus ce qui arrive aux enfants.
Et ça se multiplie, hein, ça, Mario, particulièrement là, lorsqu'on parle de craintes vaccinales là, et de mouvements anti-vaccins sont très, très forts sur ce qui est poussé au travers des enfants particulièrement parce que c'est quelque chose qui va toujours émouvoir des parents. Parents qui vont dire « Oh, au pire, je débloque une complication, c'est pas trop grave. » Mais là, ça se multiplie encore. Hein. Jusqu'à récemment, là, je voyais sur certaines pages complotistes des images de bébés avec des yeux complètement noirs, dit-on, suite à la vaccination, un peu comme si c'était une espèce de bébé démon. Je vous rassure tout de suite, c'est complètement faux, mais c'est encore actif en ce moment, même si on n'est plus dans le cœur, si on veut, là, de cette épidémie complotiste au Québec.
Tout savoir en 24 minutes.
Une fois de plus, il y a des coups de feu qui ont été tirés en plein jour à Montréal. Ça s'est passé dans le quartier Saint-Léonard, dans un terrain de stationnement d'une épicerie cet après-midi. Il y aurait plusieurs coups de feu qui auraient été tirés vers 13h30 dans le terrain du stationnement. Les policiers qui ont trouvé aucun blessé sur place. Il y a des douilles qui ont été retrouvées cependant au sol.
C'est tout ce qui restait, des douilles.
Exact, mais ce qu'on comprend sur les informations que nos collègues de TVA Nouvelles ont pu avoir, c'est qu'il y a des coups de feu qui ont été échangés entre les occupants de deux véhicules. Donc, il y aurait vraiment deux véhicules dans le stationnement qui se seraient tirés dessus, puis auraient pris la fuite chacun de leur bord avant l'arrivée des policiers. Donc, on sait pas grand-chose sur cette scène de crime-là pour l'instant.
Non, ce qu'on sait, c'est que ça a tiré.
En plein jour.
Ça a tiré des coups de feu à tort et à travers en plein jour dans le cours d'une épicerie. Ce qui est pas sans nous rappeler que ça avait tiré des coups de feu. Bon, là, c'était pas un échange cette fois-là. C'était juste un vers l'autre, là. Mais au Centre Rockland, en plein jour, à peu près dans les mêmes heures, dans un stationnement. Tu sais, un stationnement, là, c'est plein de gens potentiellement qui vont de leur retour, qui reviennent à leur retour, des enfants, des gens de tous âges.
Donc, balle perdue, c'est si vite arrivé, là. Ça pourrait mener à des tragédies là, d'un moment à l'autre, là, ce genre d'histoire-là. Il y a un homme qui est accusé de voyeurisme pour avoir filmé à son insu pendant leurs ébats sexuels son ex-copine, une femme qui l'a laissé maintenant, son ex-conjointe, après 4 ans de relation, en l'accusant, notamment son ex-conjoint Luc Paradis, d'infidélité. Le problème, c'est qu'elle a fouillé les disques durs de l'homme de 50 ans et elle a réalisé que non seulement il la trompait, mais il y avait également une vingtaine de vidéos de son ex en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes inconnues, ainsi qu'elle-même dit qu'il y avait des vidéos numérotées jusqu'à 18, qu'elle se retrouvait comme le numéro 17, et que c'est des vidéos qui ont l'air d'être prises vraiment à l'insu de leur victime, incluant elle-même, bien qu'elle ait été en couple avec l'homme à ce moment-là, ne savait pas du tout qu'elle était filmée, et donc a porté plainte à la Sûreté du Québec, ça menait à une accusation de voyeurisme, et là, le problème, c'est que les autres plaignantes, du côté de la police, on peut pas affirmer ou infirmer qu'elles auraient été consentantes ou non, et donc on veut, du côté de la victime, tenter d'aller chercher d'autres, comme ça, d'autres femmes qui pourraient vouloir porter plainte également. C'est une histoire qui est assez étrange, merci, là, sachant que ces gens-là étaient en couple à ce moment-là. Ça demeure quand même du voyeurisme. C'est pas quelque chose qui peut être fait contre le gré de sa copine.
Non, et surtout pas là, parce que là, le danger après ça, c'est qu'il diffuse. Puis je comprends qu'elle doit... Elle doit plus aimer ça du tout, là, à ce point-ci. Mais il y en avait d'autres. Donc on comprend que pour lui, c'était comme une habitude. Là. C'était comme une méthode de filmer. Toujours la question, tu sais, tu te mets dans sa peau, tu dis, il fait quoi avec ça? Est-ce qu'il y a déjà des copies de fait? Est-ce que c'est le genre de type à vouloir vendre ça, monnayer ça un jour? Aurait-il pu d'en avoir déjà fait? Alors, j'imagine qu'on prend vite les procédures.
C'est une véritable saga judiciaire qui s'est conclue aujourd'hui après 7 ans de procès. Le pasteur Claude Guillot a été condamné à une peine de 8 ans de pénitencier pour des sévices à la fois physique, psychologique, qu'il a fait subir à 5 garçons pensionnaires de son école religieuse clandestine, des faits qui se sont étirés sur plus de 30 ans. Le pasteur avait été arrêté en 2015 et reconnu coupable en avril 2018 des 22 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. On parle de voies de fait, entre autres séquestration, harcèlement, des coups de palette de bois, des coups de poing, des privations de repas, d'eau, des journées entières à devoir rester debout immobile. Il y avait une longue, longue liste de châtiments que Claude Guillot imposait à ses élèves, ou du moins c'est comme ça qu'il les appelait. Vraiment de la violence qui était vécue par des jeunes hommes qui avaient entre 4 et 20 ans lors des crimes. On parle même de parents qui avaient signé là, des certaines ententes l'autorisant à appliquer des châtiments comme si... Vraiment, une histoire absolument horrible qui est un soulagement aussi pour les victimes aujourd'hui, après 7 ans quand même de procédures judiciaires. Une école clandestine comme ça, Mario, c'est absolument ahurissant là, que ça ait pu exister aussi longtemps que ça, sans qu'il y ait
ça
justement ce
dénouement. D'ailleurs, quand on voit les victimes aujourd'hui, la plupart sont des adultes, mais qui ont quand même, qui sont regroupés, qui ont regroupé leurs énergies, qui ont confronté leurs peurs et qui ont décidé de poursuivre, parce que c'est pour eux là, c'est des rappels, ça est arrivé dans leur enfance, donc c'est vraiment un rappel de leur enfance. On était quand même, si je me trompe pas, dans un cas extrême d'écart entre la poursuite puis la défense. Là, je pense que la défense aurait aimé qu'il y ait seulement 3 ans de prison.
3 ans, oui.
Ouais, la poursuite, on était à demander 15 ans, donc c'est... Généralement, tu sais, ils regardent dans la jurisprudence, même des fois, il arrive pas à une suggestion commune, mais il arrive à un peu plus proche que ça. Alors là, t'avais vraiment un exemple de deux, tu sais, où le juge se retrouve avec deux versions complètement différentes de la gravité des actes. Et le juge a décidé, comme 8 ans, c'est, je pense qu'on faut considérer ça comme sévère, mais sévère. Sévère normal, pas sévère trop sévère, oui. Sévère bien mérité pour des actes sordides.
Économie.
Faites attention, si vous avez un foyer, un petit poêle à bois, ou même voulez faire un petit feu dans votre cour, vous voulez du bois pour vous chauffer, faites attention parce qu'on n'a jamais autant arnaqué les Québécois en ce moment sur les sites de petites annonces pour ce qui est des faux vendeurs de bois de chauffage. Il y a des gens qui se créent des faux comptes qui imitent certains services comme ça de fournisseurs de bois de chauffage. C'est arrivé par exemple à la compagnie Le Boisé Paquette qui se situe à Sherbrooke qui ont dénoncé entre autres le stratagème sur Internet. Des arnaqueurs qui mettent une fausse annonce sur Facebook Marketplace ou encore Kijiji.
En utilisant leur nom.
En utilisant leur nom, leur image, le logo de la compagnie et autres. Et là, on envoie un dépôt en argent. Deux autres demandent un virement Interac, dépôt en argent, pour venir par la suite livrer le bois de chauffage. Le problème, c'est que lorsque ce sont des escrocs qui proposent ce genre d'annonce, ben ils se pointent jamais ni avec votre bois, ni avec une facture ou quoi que ce soit pour l'argent que vous leur avez viré. Il y a des montants demandés là qui vont de 80$ jusqu'à 500$ même dans certains coins. Donc,
mais
on
c'est
a,
ça que les gens avancent l'argent, là. Les gens font le dépôt.
Ouais, mais c'est comme dans plein d'arnaques, Mario. Hein. C'est ce qu'on essaie de rapporter là, du côté des autorités.
On
doit trouver
une raison que là, on a vu, ils doivent dire qu'ils ont vécu des mauvaises expériences, puis qu'ils se déplacent plus qu'une charge de bois si la personne n'a pas déjà payé, parce que.
Ben oui, exact. Puis ils sont très pressés de vouloir vous le vendre. Puis là, c'est rapide. Puis là, c'est les derniers morceaux de bois qu'ils ont. Puis non, là, ce qu'on dit là, c'est demandez à parler au téléphone avec le vendeur. Voyez le bois avant de payer. Faites jamais un virement Interac à qui que ce soit. Donc, c'est toujours le même pattern, si on veut, là, le même modus operandi pour les arnaqueurs, quel que soit le produit. Mais c'est, pour moi-même, la première fois que j'entendais parler d'arnaque au bois de chauffage. Comme ça, faut dire qu'on est dans la saison.
Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. D'après moi, si tu veux faire des arnaques comme ça, à chaque saison, tu sors l'espèce de petit produit, tu sais, le petit produit simple que ben du monde a un moment là, tout le monde a besoin de ça là, tu sais, les gens notre foyer l'hiver au chalet n'importe quoi, un petit foyer, un petit poêle à bois, ça nous prendrait du bois, tu sais, fait que t'arrives au moment où c'est ça qui est l'achat du moment là, tu sais, un achat simple, pas trop que les gens planifient peu ou souvent ils ont pas de fournisseur là, tu sais,
ouais.
Pas de fournisseur constant avec, ils vont faire une petite recherche vite fait puis eux s'assurent de tomber dans les outils de recherche là.
Le monde.
Le gouvernement canadien a demandé à l'ambassadeur de Chine de venir s'expliquer, après que ce soit plutôt cette semaine l'ambassadeur russe qui a dû venir s'expliquer à Ottawa. C'est autour des Chinois et tout ça concernant les postes de police chinois présumés au Canada. Et on veut avertir des possibles mesures en réaction à tout ça. On parle du côté de Pékin, eux disent que c'est des postes entre guillemets là, qui ont rien de policier.
Je pense qu'on peut les appeler les mystérieux postes de police chinois en sol canadien, là.
Ouais, parce que Pékin disent on veut seulement fournir une assistance gratuite aux citoyens chinois, mais de l'autre côté du gouvernement canadien, on explique.
Ils ont donné l'exemple du permis de conduire. Là. Tu vis au Canada, t'es un citoyen d'origine chinoise, t'as une citoyenneté canadienne, tu vis au Canada, mais t'aimerais ça garder valide ton permis de conduire en Chine. Donc eux vont t'aider avec une démarche administrative comme celle-là. Avec ça serait. C'est l'exemple qu'on a trouvé pour dire pourquoi il faut ces bureaux, mais là, pourquoi le consulat? Parce que. Faut comprendre qu'il est permis pour un pays d'ouvrir des bureaux dans un autre pays. Ça s'appelle une ambassade dans la capitale, le premier bureau. Mettons, la Chine veut être présente au Canada. Pas de problème. Premier bureau, l'ambassade, dans la capitale à Ottawa. Puis ensuite, si tu dis, le territoire du pays est grand, moi, je vais accommoder des voyageurs, tu peux ouvrir un consulat à Montréal, un à Halifax, un à Winnipeg, un à Vancouver. Tu vas t'éparpiller tes consulats pour couvrir le territoire. Et ça, des ambassades et des consulats, c'est de la diplomatie officielle. Il y a la Convention de Vienne qui encadre ça. Le jour où tu ouvres un consulat dans un autre pays, c'est l'autre pays l'approuve. Ils ont l'adresse, là, ils savent où. Il y a pignon sur rue, ils s'appellent un consulat, puis au ministère des Affaires étrangères du Canada, ils ont l'adresse exacte, tu comprends? Alors, tu peux pas, il n'est pas permis pour un pays d'ouvrir autre chose que ces espèces de délégations officielles, là, d'ouvrir un bureau avec du monde privé, puis là, qui font des affaires que tu sais pas trop, mais qui font de la politique, sont comme un service public, mais pas public. Et là, ça serait une police parce que les dissidents du régime qui vivent au Canada ont peur.
Ouais, ils seraient harcelés par ces postes de police là factices qui sont créés ici. Selon là l'enquête qui a été lancée par Safeguard Defenders, l'organisme qui a lancé tout ça, ils ont révélé qu'il existerait pas moins de 54 postes de police de ce genre-là dans le monde, dont 3 dans la grande région de Toronto. Le rappeur Kanye West, Mario, on s'en est parlé beaucoup dans les dernières semaines, les derniers mois, là, alors qu'il s'enfonce de plus en plus dans des remarques et des théories complotistes antisémites qui visent particulièrement les Juifs. Eh bien, il a atteint un nouveau sommet, Mario, ou plutôt un nouveau bas-fond aujourd'hui. Sais-tu qui il est allé rencontrer sur son plateau?
Non.
Il est allé voir le complotiste Alex Jones à son émission InfoWars. Oui, c'est débarqué là avec une cagoule noire qui couvrait l'entièreté de son visage. S'est lancé dans une tirade sur le péché, la pornographie, le diable. Rappelle qu'Alex Jones a des centaines et des centaines de millions de dollars maintenant contre lui qu'il va devoir payer pour avoir lancé des théories du
condamnation
complot.
Condamnation de la cour. Là.
Exact. Et Kanye West a réussi un exploit, Mario. Il a réussi à rendre Alex Jones, ce complotiste d'extrême droite, mal à l'aise parce qu'il s'est mis à encenser Adolf Hitler. Je vous ferai pas réécouter les extraits audio parce que c'est absolument odieux, mais s'est mis à dire qu'il voyait que des choses positives à l'égard d'Hitler. Dit c'est un gars avec vraiment là qui a amené toutes sortes de choses à l'humanité. Il a dit j'adore les nazis, faut cesser de toujours les insulter en permanence. Vraiment là, il a fallu qu'Alex Jones lui-même dise attention là, les nazis ont quand même fait des choses horribles. Il a fallu que lui-même rectifie le tir pour Kanye West.
Ouais.
Vraiment.
Quand
là,
tu
on
te remets à l'ordre par Alex Jones sur le plan des faits, ça va pas bien. Non mais Kanye West c'est devenu c'est même plus politique ou c'est devenu
un enjeu de santé mentale, Marie.
Ben, c'est ça, je veux dire, il n'y a pas des amis qui sont capables d'aller le chercher et de dire là, ta gueule, là, c'est fini, c'est assez. Parce que ça devient sincèrement, il n'y a même plus à commenter ça d'un point de vue social ou politique. Là. C'est juste pathétique de le voir dire des conneries de la sorte, dire des énormités de la sorte. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.